Patrick Despaquet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes microbiologiste agréé, biochimiste, président de l'Association des microbiologistes du Québec et microbiologiste chez Bioca+. Ça donne bien. Aujourd'hui, on parle des probiotiques qui ont, je le disais tout à l'heure en introduction, la bonne cote en ce moment, populaire. On les appelle les bonnes bactéries, les micro-organismes gentils. On leur attribue des vertus quasi magiques à ces probiotiques-là. Tout d'abord, je pense que pour bien comprendre, il faut savoir qu'on a des bactéries à l'intérieur de nous. Certaines sont bonnes, certaines sont mauvaises. Comment on peut départager tout ça?
Mais en fait, comme vous dites, il existe, on pourrait classer facilement les bactéries en deux groupes. Hein, les bactéries qui sont, comme vous soulignez, qui sont mauvaises, donc des bactéries pathogènes qui causent des infections, qui causent des maladies infectieuses et des problèmes de santé. Et sinon, l'autre groupe de bactéries qu'on va appeler davantage des bonnes bactéries, donc des bactéries qui ont un effet bénéfique sur notre santé. Et quand on regarde au niveau de notre système digestif, là où on a près de 100 000 milliards de bactéries, donc c'est quand même un nombre assez important. Le rôle de ces bactéries-là dans notre flore digestive, maintenant qu'on appelle surtout le microbiote intestinal, là, c'est le nom que ça porte maintenant, mais vont surtout avoir des effets bénéfiques au niveau de la protection. Ça va empêcher les mauvaises bactéries de venir adhérer à notre intestin. Ces bonnes bactéries-là vont produire des substances antimicrobiennes, vont aider dans la production d'anticorps, le développement de notre système immunitaire. On nous aider aussi dans des processus de digestion, dans la synthèse de certaines vitamines et donc une série d'actions qui vont être bénéfiques pour notre santé.
Et ce que j'ai cru comprendre en préparant l'émission, c'est que ces bonnes bactéries-là, plus on vieillit, donc on prend de l'âge, plus elles disparaissent, là. Elles ne sont pas de façon éternelle dans notre organisme.
Mais en fait, il faut peut-être faire un peu la distinction entre les probiotiques et les bonnes mm-hmm. bactéries. Donc, mm-hmm. ce qu'on va parler, surtout principalement de notre microbiote intestinal. Lui, le microbiote intestinal, il fluctue dans le temps. Hein. Tous les jours, notre microbiote intestinal va être perturbé par notre alimentation, le stress, la prise de médicaments, nos habitudes de vie. Parfois, notre microbiote va venir s'enrichir. Parfois, il va s'appauvrir. Mm-hmm. Puis c'est au moment où est-ce que le microbiote va s'appauvrir que souvent, on va voir des problèmes de santé qui vont se manifester parce qu'on va tomber à ce moment-là dans un état qu'on appelle de dysbiose, donc de déséquilibre au niveau de la flore digestive, une perte de diversité et à ça, peut découler différents problèmes de santé. Puis quand on le compare avec les probiotiques, parce que je pense que c'est un peu là que vous vouliez aller,
ouais.
dans le sens que les probiotiques, souvent, c'est des bactéries qui colonisent de façon temporaire l'intestin, donc ils ne vont pas nécessairement s'implanter à long terme. Le temps qu'on en consomme, les probiotiques sont présents. Après un certain temps qu'on en consomme le plus, leur présence, elle est transitoire. Là.
Oui, voilà. Et quand notre système immunitaire peut-être dépérit un petit peu parce que justement ces mauvaises bactéries ont pris un petit peu plus d'ampleur, c'est là que joue un rôle important les probiotiques. C'est quoi ça, ces bonnes bactéries-là?
Mais en fait, très simplement, les probiotiques, c'est des bonnes bactéries, parfois des levures, qui procurent un effet bénéfique pour la santé. Ça, c'est vraiment la définition la plus simple. Je vous dirais qu'on connaît, globalement, on connaît surtout les probiotiques pour leur effet sur la santé digestive, pour aider à régulariser tout ce qui va être notre fonction intestinale, aussi pour moduler notre système immunitaire, renforcer nos défenses naturelles. Mais les recherches scientifiques et cliniques, parce qu'il faut le dire, hein, il y a de plus en plus de recherches sur le sujet des probiotiques, montrent que les bactéries probiotiques, on peut avoir aussi un impact significatif sur plusieurs problèmes de santé. On va parler ce qui ressort le plus au niveau des recherches, au niveau aide pour les maladies inflammatoires, maladies digestives, les effets secondaires dus à la prise d'antibiotiques, différentes infections, les infections Helicobacter pylori là, qui causent des ulcères d'estomac, infections acides difficile, constipation, obésité, taux de cholestérol, il y en a énormément d'effets bénéfiques auxquels sont associés les probiotiques. Par contre, ce qui est important de souligner, puis je crois que c'est un élément quand même assez central, c'est que tout, parce que c'est un peu ce que vous disiez en début d'émission, ça semble être des bactéries qui guérissent tout.
Oui.
Mais en fait, c'est que l'effet, on va appeler ça en microbiologie, un effet qui est souche-dépendant. C'est qu'à travers les probiotiques, qui est un terme qui est relativement général, on retrouve différentes souches.
Uh-huh, okay.
Et à ce moment-là, on a certaines souches qui ont certains effets et d'autres souches qui vont avoir d'autres effets. Puis pour permettre aux auditeurs peut-être de bien comprendre un peu le phénomène de souche dépendante, quand on pense, exemple, à la bactérie Escherichia coli, E. coli, là, que souvent on entend dans les médias, eh bien, il y a une souche qui est entéro-hémorragique puis qui cause ce qu'on appelle communément la maladie du hamburger puis qui est potentiellement mortelle comme infection. Et on a aussi d'autres souches de E. coli qu'on retrouve dans notre intestin et qui, elles, produisent de la vitamine K et qui est essentielle à au système de coagulation. Et donc, on peut voir que pour une même bactérie, dans ce cas-ci, Escherichia coli, ben, dépendamment de la souche, j'ai un effet qui est complètement différent. Et chez les probiotiques, c'est le même principe qui se retrouve.
Mais je pense que c'est ça qui devient un petit peu mélangeant pour les consommateurs en ce moment, parce que ça aussi, je le disais tout à l'heure d'entrée de jeu, maintenant, les probiotiques, ils se retrouvent dans des produits que l'on consomme au quotidien, du jus, des céréales, des produits laitiers. Comment on fait pour se départager ces différentes souches-là?
Bien, en fait, je vous dirais que c'est surtout la raison pour laquelle vous voulez consommer des probiotiques qui va vous amener vers un produit plus qu'un autre. Et pour bien comprendre la distinction entre les produits, je sais que les probiotiques, souvent, on en retrouve en formule très concentrée au niveau des pharmacies. Oui. Et dans ce cas-là, discuter avec le pharmacien pour lui exposer notre problème de santé. Un, pour vérifier s'il existe bien des souches probiotiques qui ont des allégations pour aider à notre problème de santé. Et si oui, bien, lequel de ces des produits qui sont en vente va vraiment correspondre à notre besoin, toujours en s'assurant que les allégations qui sont soutenues par ces produits-là le sont faites sur des bases scientifiques, sur des bases cliniques, où on a vraiment démontré scientifiquement que mon produit probiotique X avait un effet sur ce problème de santé-là, et demander aux pharmaciens de nous guider à travers les produits.
Parce que ce qui est important à saisir, Patrick, c'est que notre corps ne produit pas de probiotiques et on n'en retrouve pas, bon, évidemment, excepté les produits où on a ajouté des probiotiques, mais on n'en trouve pas nécessairement dans notre alimentation.
Ben non, en général, comme vous dites, ça va être des aliments soit qui vont être supplémentés en probiotiques ou encore là, on va consommer des produits qui sont, qu'on pourrait appeler 100% probiotiques, donc des concentrés de bactéries probiotiques, que ça soit sous forme de lait fermenté, par exemple, ou de capsules qui, eux, vont être des aliments qui sont 100% probiotiques.
Mm-hmm. Pour savoir si on en a besoin, on consulte notre pharmacien. Patrick, est-ce que vous conseillez, bon, bien sûr, vous n'êtes pas médecin et ça... Je pense qu'il faut le spécifier, mais est-ce que vous conseillez d'en prendre tout de même une dose quotidienne?
Bien, le dosage quotidien qu'on pourrait prendre de probiotiques, je vous dirais que ça dépend surtout de la raison qui nous amène à en consommer, parce qu'il y a plusieurs raisons, puis je pense qu'il faut en parler, parce qu'on peut consommer des probiotiques de façon préventive, que ce soit pour maintenir une bonne santé digestive, maintenir un bon équilibre, une bonne diversité au niveau de notre microbiote intestinal, comme on parlait plutôt en émission. On peut aussi en consommer encore de façon préventive, mais plus ciblé, hein, si on va dans des zones tropicales, donc la prévention de la diarrhée du voyageur, prévenir les risques qui sont associés à la prise d'antibiotiques ou les risques qui sont associés aux infections assez difficiles en milieu hospitalier. Donc là, on est déjà dans une prévention plus ciblée. Ou encore là, on peut décider d'en consommer davantage comme un traitement, puis là, je le dis entre guillemets, dans le sens que ça va peut nous aider à réduire certains symptômes du côlon irritable pour les gens qui en sont affectés, nous aider pour les gens qui souffrent de problèmes digestifs, ballonnements, gaz, inconfort, le traitement de la vaginite aussi, il y a certains probiotiques qui ont un effet à ce niveau-là. Donc, je vous dirais que la consommation qu'on va en faire, que ça soit de façon ponctuelle dans l'année, que ça soit à chaque semaine, à chaque jour, ça dépend des individus, ça dépend de l'effet qui est recherché. Oui, c'est vraiment ça qui va dicter notre consommation de probiotiques.
Et j'imagine, même chose, si on décide d'en prendre plus sous forme liquide, dans un yogourt, sous forme de capsule, tout ça aussi, ça va aller selon nos besoins.
Oui, effectivement, oui.
Bon, maintenant, certains diront, OK, les probiotiques, c'est cher. Pourquoi? Puis est-ce que le prix influence quelque chose?
Mais en fait, le prix des probiotiques, je vous dirais que c'est surtout le reflet que l'investissement que les compagnies ont fait au niveau de la démonstration préclinique, la démonstration clinique des effets thérapeutiques qui sont allégués, les investissements aussi qui sont nécessaires pour assurer des standards élevés au niveau de l'assurance qualité, au niveau du contrôle qualité, parce qu'on parle surtout des probiotiques qui sont en vente dans les pharmacies, des produits avec une concentration très, très, très élevée. Donc, il y a toute une infrastructure d'ingénierie, toute une infrastructure scientifique autour de ça pour finir, pour livrer finalement au consommateur un produit à valeur ajoutée, un produit avec des qualités qui sont avérées, des certifications, et au final, donner une garantie au consommateur que le produit pour lequel on lui dit qu'il va avoir un effet XY sur sa santé, bien que l'effet va bien être là.
Et qu'est-ce qui devrait guider, soit de choisir un probiotique qui se retrouve dans notre yogourt ou vraiment d'y aller vers un supplément?
Je vous dirais, puis un peu, j'ai l'impression un peu de me répéter, mais...
C'est la qualité.
Pas nécessairement la qualité, mais c'est vraiment être la raison qui nous amène à en consommer. Okay. Parce qu'il y a des gens qu'on peut voir aussi dans les produits probiotiques qui sont en vente sur tablette, il y a différents dosages de probiotiques. Il n'y a pas nécessairement un dosage qui est meilleur, un qui est meilleur que l'autre. C'est des dosages qui sont adaptés à différents problèmes. Est-ce qu'on est plus dans le domaine de la prévention générale, de la prévention ciblée, ou vraiment dans une portion qui est plus presque thérapeutique? Et souvent, ces dosages-là sont le reflet des études cliniques qui ont été faites, des études dose-réponse, où on a comparé des cohortes de patients qui recevaient le probiotique versus ceux qui ne le recevaient pas, quel dosage ils ont obtenu, et finalement, lequel dosage a corrélé le meilleur effet. Et c'est à ce moment-là qu'on va s'orienter vers différents produits. Puis dans le doute, les pharmaciens ou les nutritionnistes aussi d'ailleurs, ou même les médecins, les professionnels de la santé en général, peuvent nous aider à se retrouver un peu dans ce dosage-là, puis un peu dans le dédale des études scientifiques qui ont été faites pour savoir finalement qu'est-ce qui est probant, qu'est-ce qui se démarque et vers quoi on devrait s'orienter.
Pourquoi c'est gardé au frigo souvent?
Parce que c'est des bactéries qui sont vivantes et les températures qui sont plus froides vont ralentir leur métabolisme. C'est un peu le même principe que du lait, du yogourt. Mm-hmm. On les garde au réfrigérateur parce que justement, ça ralentit le métabolisme bactérien. Ça permet de les garder plus longtemps. Que des températures qui sont plus élevées ont tendance à activer le métabolisme des micro-organismes. Et si ce métabolisme-là est activé, bien, on a une durée de vie du produit qui est moins longue parce que ça reste un produit vivant.
Mm-hmm. On parlait tout à l'heure que ça peut être adéquat pour des personnes qui sont des personnes aînées, des personnes vieillissantes. Est-ce que les probiotiques peuvent être adéquats pour des enfants?
Encore là, c'est une question de souche spécifique. Hein. Il y a des produits probiotiques qui sont commercialisés pour aider à réduire les coliques chez les jeunes enfants. Ah oui. Donc déjà là, on voit qu'on a des produits qui sont adaptés. À prime abord, il n'y a pas de contre-indication, je vous dirais, d'en consommer, que ce soit des enfants, des adultes ou des personnes âgées, d'en consommer. C'est sûr que dans le doute, hein, si on n'est pas sûr, soit par rapport à l'âge, que ce soit très âgé ou très jeune, par rapport à notre condition de santé, je me répète encore, le pharmacien peut nous guider à ce niveau-là. Mais de façon générale, ou encore là, les compagnies elles-mêmes qui commercialisent les probiotiques, ils ont du service à la clientèle, on peut communiquer avec eux, leur poser la question. Mais de façon générale, j'ai des individus qui sont en santé, il n'y a pas de contre-indication parce qu'on est quand même dans le domaine des bactéries naturelles, ouais. Bon, qui sont bonnes pour la santé.
Peu de risque de faire une overdose. Là.
Effectivement, on peut pas ne trop en consommer de façon générale.
En terminant, Patrick, je veux vous parler des prébiotiques. On parle beaucoup des probiotiques. On le disait tout à l'heure, les bienfaits sont connus, de plus en plus connus, les vertus également, on en parle depuis tout à l'heure. Les prébiotiques, un petit peu moins connus toutefois.
Oui, effectivement, et je vous cacherai pas que c'est un sujet que je connais aussi un peu moins, mais de façon générale, on dit les probiotiques, c'est des molécules qui ont pour rôle de stimuler la croissance de certaines bactéries qui sont bonnes pour notre santé, comme les probiotiques. Donc, ça va être des molécules qu'on retrouve dans l'alimentation, que nous, on digère pas au niveau de notre intestin, mais qui va servir d'aliments préférentiels à certaines souches bactériennes et qui, là, vont les aider à se développer, à croître et à produire leurs effets bénéfiques pour la santé.
Donc, ça nourrit les bonnes bactéries.
Ça nourrit les bonnes bactéries. On retrouve des produits, des fois, qui ont les deux, hein, un prébiotique et un probiotique. Ah oui. Alors là, on va souvent appeler ça un symbiotique, là, la combinaison des deux. On peut consommer des probiotiques seuls, des probiotiques aussi, seuls de leur côté. Mais ce qui va vraiment comme conditionner le choix de un plus que l'autre, c'est le fait, est-ce qu'on se retrouve avec des souches probiotiques qui nécessitent la présence de probiotiques ou vice-versa? Mais ça, c'est vraiment toute la formulation et le produit qui va être développé, qui va guider vers un choix plus qu'un autre. Mais c'est pas des produits à mettre nécessairement en opposition dans le sens, moi, je suis plus prébiotique, moi, je suis plus probiotique. C'est des produits qui sont complémentaires puis qui sont adaptés à la prévention de différents problèmes de santé.
Oui, j'ai l'impression que s'il y a un manque de prébiotiques, ben, les bonnes bactéries ne peuvent se nourrir. Donc, en effet, c'est assez complémentaire. Vous disiez, Patrick, que les prébiotiques se retrouvent dans notre alimentation. Est-ce qu'on sait quel aliment en contient?
Dépendamment des variétés de prébiotiques. Je sais que dans la racine de chicorée, on en retrouve dans l'ail, les oignons, les asperges. Donc, il y a différents aliments qui en contiennent naturellement. On peut avoir aussi des aliments transformés, exemple, mettons, comme le pain qu'on va avoir supplémenté en prébiotiques. Donc, je ne vais pas me tromper, mais je crois qu'il fut un temps où il y avait certains jus commerciaux qui étaient supplémentés en probiotiques, mais je crois aussi en prébiotiques, en tout cas, sous toute réserve. Et donc, on peut en retrouver, comme je vous dis, soit naturellement, soit de source naturelle, mais rajouté dans des éléments transformés, mais toujours dans le but d'aller chercher une meilleure santé digestive au final.
C'est toujours dans un but de santé, toujours aussi dans un but de prévention. Et oui. C'est pour ça que vous étiez là, vous qui travaillez chez Bioka notamment et qui êtes, je vais retrouver tout votre titre, qui êtes microbiologiste agréé et biochimiste et également président de l'Association des microbiologistes du Québec. On laisse votre site, le site de votre blog, Patrick, www.sciencepresse.qc.ca. Vous trouverez une panoplie d'articles et d'ailleurs une entrevue qu'on a fait ensemble il y a quelques semaines, quelques mois sur les antibiotiques. Donc, justement, consommons des probiotiques si on a consommé des antibiotiques et vous pourrez peut-être comparer un petit peu les deux sujets ainsi. Patrick, merci.
Ça fait plaisir. Au revoir.